Thank you.
Merci.
Let's turn in our Bibles to Luke 5.
Ouvrez vos Bibles en Luc 5.
And we want to read the first eight verses.
Et on va lire les 8 premiers versets de Luc 5. Or il arriva, comme la foule se jetait sur lui pour entendre la parole de Dieu, qu'il se tenait sur le bord du lac de Génézareth, et il vit deux nacelles qui étaient au bord du lac. Or les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Et montant dans l'une des nacelles, qui était à Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et s'étant assis, il enseignait les foules de dessus la nacelle. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Mène en pleine eau et lâchez vos filets pour la pêche. » Et Simon répondant lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je lâcherai le filet. » Et ayant fait cela, ils enfermèrent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Et ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre nacelle de venir les aider. Et ils vinrent et remplirent les deux nacelles, de sorte qu'elles enfonçaient. Et Simon-Pierre, ayant vu cela, se jeta aux genoux de Jésus, disant, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Est-ce que vous ne croyez pas que Jésus était un bon prédicateur? C'était probablement un très bon enseignant. Mais c'est extraordinaire de voir qu'il n'a pas sauvé le monde par la prédication. Et il n'a pas sauvé le monde en parlant, mais en souffrant. Donc je regarde les drapeaux ce soir. C'était vraiment une scène extraordinaire pour moi, ça m'a touché profondément. Et je pensais à tous ces endroits où Dieu nous a conduits. Et je pensais qu'on n'est pas allé là-bas juste en parlant. Mais il y a quelque chose de plus qui fait partie de ça. Parce que les mots, ça fatigue si ce n'est pas connecté à quelque chose de réel. Les mots, c'est quelque chose qui fatigue. Et il y en a tellement qui servent à rien, qui sont en liaison avec rien. Les gens disent que la culture européenne, c'est une culture fatiguée. Les gens sont trop fatigués pour faire quoi que ce soit de nouveau. Les gens sont trop fatigués pour aller à l'église. Et c'est vrai, les gens sont fatigués. Et c'est dans notre culture. Parce qu'il y a eu tellement de mots qui ne correspondaient à rien. J'aime vraiment ce passage parce que ça me parle de façon très forte et très personnelle. Je veux juste parler de quelque chose qui est en rapport avec la mission ce soir, d'une façon très personnelle. C'est un miracle extraordinaire que nous soyons ici ce soir. C'est un miracle de grâce et c'est notre message. Notre message, ce n'est pas la justice propre. Notre message, c'est la grâce. Ça fait 3 ans que je suis en Turquie, que je suis missionnaire et pasteur là-bas, en train de commencer d'implanter une église. Et pendant ces 3 années, est-ce que vous croyez que j'ai péché? Serait-il possible que j'ai péché plus d'une fois? Oui. En fait, j'ai écrit une liste de tous les péchés que j'ai commis depuis ces 3 dernières années. J'ai pensé que ça serait intéressant pour vous. Est-ce que vous voulez les entendre? Vous savez, c'est une des choses intéressantes quand je suis arrivée dans cette église. J'étais tellement surpris de voir que personne n'était intéressé par mes péchés. C'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. J'étais allée à tellement d'églises, et on aime toutes les églises où Christ est proclamé, mais j'étais tellement fatiguée de ça, de cette conscience du péché. Et pour la première fois, j'ai compris que le péché n'est pas un problème, que Dieu peut nous utiliser. Dieu peut nous utiliser comme nous sommes. Même si nous avons toujours notre nature pécheresse, Dieu peut nous utiliser. C'est un miracle. C'est un grand miracle de grâce. Et maintenant, quand j'ai servi en Ouzbékistan, un des membres de mon équipe m'a parlé d'une femme et il est venu vers moi. Il était vraiment brisé. Et il m'a dit, j'ai vu cette femme. Elle était étendue dans la rue. Et elle était saoule. Et elle était malade. Et elle était là. Et ce membre d'équipe a dit, j'avais vraiment un fardeau de la part de Dieu pour cette femme. Est-ce qu'on pourrait essayer d'aller la chercher? Je veux juste lui amener des vêtements et de la nourriture parce que je crois qu'elle souffre beaucoup. Et on a trouvé cette femme. Je lui ai dit, d'accord, on va y aller. Si Dieu nous conduit vers cette femme, on va la trouver. Et donc on l'a trouvée hors de la ville. Et elle était là toute seule. Et elle était en haillons. Elle n'avait aucun vêtement décent. Et elle était en train de cuisiner quelque chose sur un feu hors de la ville. Et je ne l'avais jamais vue avant. Et quand je l'ai regardée, j'étais choquée. Et ce qui m'a choquée, c'est ça. Au même moment, en Finlande, on avait des élections présidentielles et on avait deux candidats féminins, deux candidates à cette élection. Et cette femme ressemblait incroyablement à l'une des deux candidates. C'était une véritable copie, un véritable sosie de ce candidat. Et ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment cette femme vit là, dans ses haillons, alors que l'autre a une opportunité tellement glorieuse dans sa vie? Et ça m'a vraiment coûté de penser au miracle de la grâce. La grâce est tellement, je ne peux pas dire injuste, mais c'est tellement impossible, c'est tellement surnaturel. C'est un don de Dieu. C'est pourquoi l'homme ne peut pas le contrôler, ne peut pas le manipuler. Je ne peux pas retenir Christ et ne pas l'annoncer à certains. Je n'ai aucun droit de le faire. Je peux avoir une autorité, je peux avoir beaucoup de puissance, mais je n'ai aucune puissance pour ne pas annoncer Christ à certains. Et ça, c'est l'émission. Un matin, je marchais dans Istanbul. Vous savez, Istanbul est une grande ville, environ 20 millions de personnes. Et il y a toutes sortes de personnes et de situations là-dedans. Et souvent, le matin, quand vous marchez dans la rue, vous voyez ces gens dans les parcs qui ont dormi là pendant la nuit, des gens qui vivent dans la rue, et beaucoup d'entre eux sont des toxicomanes. Et j'ai rencontré un jeune garçon qui ne fait plus partie de ce monde. Ils font plus vraiment partie de ce monde, ils ont une vie comme des animaux. Et l'un d'entre eux était dans le parc, couvert de haillons. Il n'y avait vraiment aucune vie dans ses yeux. Et je l'ai regardé. Et j'ai compris que ça aurait pu être moi. J'ai regardé à cette personne. Et c'était tellement clair que Dieu était en train de me parler que je n'arrivais même pas à le croire. J'ai trouvé la grâce. Juste comme la Bible dit à propos de Noé. Il a vécu pendant des jours mauvais dans un monde méchant. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est un miracle. On a trouvé la grâce et c'est notre message pour les gens. Merci, mais j'ai reçu la grâce. Il y a une personne dans notre église qui me mentait tout le temps. Et j'étais tellement en colère. Elle me mentait tout le temps. Et je commençais à être vraiment en colère contre cette personne. Et puis j'ai compris que ça pouvait être moi, ça aurait pu être moi. Et j'ai trouvé la grâce. Au début de cette année, nous avons déménagé dans un nouveau local. Mon assistant et moi vivons dans la même maison. Je suis au troisième étage, ils sont au deuxième étage avec sa famille. Et on a des problèmes pratiques. Et il m'expliquait que le voisin lui a dit où aller. Et il m'a regardé et il a dit, je lui ai demandé, est-ce que c'est lui ou elle? Et il m'a dit, je ne sais pas. Je ne sais juste pas si c'est lui ou elle. Et je lui ai dit, mais sors de cette maison, on ne peut même pas vivre dans une maison comme ça. Et ensuite, j'ai eu ce gros sens de propre justice qui a enflé en moi et j'ai commencé à être très en colère. Et ensuite, le Saint-Esprit a murmuré, ça pourrait être toi. Et je lui ai dit, mais de quoi tu parles? Ça ne peut pas être moi, ça n'aurait pas pu être moi. Il n'en est pas question. Mais le message est clair. Ça pourrait être votre frère, ça pourrait être votre ami, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. Et c'est ça la grâce. Pierre, quand il a vu Jésus, il s'est senti tellement pécheur. Il lui a dit, retire-toi de moi, retire-toi de moi. Il ne pouvait pas être d'accord avec cette grande prise. Il n'était pas justifié. Je suis un homme pécheur. Je n'ai pas mérité cette prise. Retire-toi de moi. Moïse a dit, va chercher quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez? Dieu appelle Moïse et Moïse lui donne toutes sortes d'excuses. Va chercher quelqu'un d'autre, n'importe qui d'autre. Parce que je suis un homme pécheur. On a tous ces exemples dans la Bible, des images extraordinaires de gens qui ont reçu la grâce. Et ils sont tous des vaisseaux pour l'œuvre de Dieu, des vaisseaux brisés. Et c'est tellement extraordinaire pour moi personnellement que quand je regarde à cette croix, quand je regarde à Christ sur la croix, je me dis, ça devrait être moi. C'est ma place. Et c'est notre message. Il a pris notre place. Et on peut aller n'importe où. On peut aller voir n'importe qui aujourd'hui. On peut rencontrer n'importe quelle situation. Nous avons un message. Parce que nous ne sommes pas là pour essayer de réparer la vie des gens. Mais pour leur dire, on est juste comme vous. Mais il y a la grâce. Nous avons trouvé la grâce. Tous ces vaisseaux, des vaisseaux brisés. Et je pense, c'est tellement mystérieux ça dans l'œuvre de Dieu, qu'il utilise des vaisseaux brisés. Et la chose la plus importante pour le vaisseau pour être utilisé, c'est qu'il soit brisé. Et ça n'a pas de sens. Dieu utilise des outils brisés pour son travail, pour son œuvre. C'est comme transporter de l'eau dans une cruche fissurée d'un endroit à l'autre. Et imaginez, toutes les cruches sont en train de fuir, sont brisées. Et on a envie de lui dire, mais pourquoi tu ne peux pas trouver de meilleurs vaisseaux? Et il dit, non, il n'y en a pas d'autres, c'est tout ce qu'on a. Et Dieu a choisi de les utiliser pour sa gloire. Et il le fait de façon merveilleuse et extraordinaire. Et on voit ça dans le monde entier. Je vais juste partager encore une chose. Comme vous le savez, je suis peintre. Et c'est un autre monde. Et je suis reconnaissant à Dieu pour ça. Parce que Dieu a ouvert beaucoup d'opportunités. Et dans une semaine, je vais avoir une exhibition dans la ville d'où je viens. Et je vais rencontrer des gens que je n'ai pas vus depuis mon enfance. Et j'ai une grande attente pour ça. Je suis vraiment enthousiaste. Et pour cette exposition, j'ai fait un catalogue que certains d'entre vous ont vu. C'est juste un simple catalogue pour l'exposition. Et il y a certaines de mes peintures, mais il y a aussi des choses que j'ai écrites, des poèmes. Il y a une personne qui a prié pour moi avant que je sois sauvée dans ma famille. Et je vais souvent la visiter. Elle est à Helsinki. Et donc, je lui ai envoyé le catalogue et elle a vraiment aimé les images. Et dans notre culture, on n'encourage pas les gens. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Ou du moins, du temps où je vivais en Finlande, ça ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Et c'est tellement intéressant parce que cette femme, donc ma tante, elle est de la vieille école. Donc je savais qu'elle n'allait pas m'encourager parce qu'elle a peur que je devienne fière. Et elle a raison là-dedans. Mais je n'ai pas pu résister à la tentation et je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu penses du catalogue ?» Et elle a dit « Oui, j'ai déjà vu certaines de ces images avant. » Alors je lui ai dit « Et les poèmes, est-ce que tu les as lus ?» Et je savais qu'elle les avait tous lus la nuit d'avant. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu as pensé des poèmes ?» Et elle est allée à la cuisine sans rien dire. Et j'étais assis dans la pièce et je commençais à être en colère. Est-ce qu'elle ne pourrait pas au moins dire un mot ? Elle est juste allée à la cuisine pendant que je restais tranquille. Et ensuite, elle est sortie de la cuisine. Et je lui dis, alors ? Alors, qu'est-ce que tu as pensé des poèmes ? Et elle est restée silencieuse. Et ensuite, elle a dit, ils ne riment pas. J'étais tellement en colère. J'aurais pu prendre toutes ces fleurs en plastique sur le mur et les lui faire avaler les unes après les autres. J'étais tellement en colère. Je me disais, mais pourquoi tu ne peux pas dire un mot ? Au moins, ils sont OK. Et alors que la colère était en train de monter, c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a parlé. Et il m'a rappelé que c'est ce que Dieu a dit à Caïn en Genèse 4. Vous vous rappelez ? Quand Caïn s'est senti tellement offensé de ce que Dieu n'avait pas reçu son offrande, son sacrifice. Et Dieu lui a dit, pourquoi es-tu en colère ? Pourquoi ta contenance est-elle tombée, a-t-elle changé ? Si tu fais bien, tu seras accepté. Si tu fais bien, tu seras accepté. Et ça a été un message de Dieu vraiment puissant pour moi. Parce que c'est là que nous nous trouvons. C'est là que nous nous trouvons tous. Si nous sommes dans son plan, nous devons juste l'accepter et nous pouvons être amis de Dieu et c'est le plus grand don qui existe sur cette terre. Amen. S'il vous plaît, levez-vous avec moi et ouvrez vos Bibles en Jérémie 32. Jérémie 32, verset 6. Et Jérémie dit, la parole de l'Éternel vint à moi, disant, voici, Hanaméel, fils de Shalom, ton oncle, vient vers toi, disant, achète-toi mon champ qui est à Anatoth, car le droit de rachat est à toi pour l'acheter. Père, on te remercie ce soir. Merci pour le message, pour la grâce de Dieu. Comme pasteur Matty vient juste de le prêcher avec une onction qui brise le joug, merci pour les promesses de la grâce. Merci pour le ministère Merci pour l'héritage que nous avons. 50 ans. Merci pour le ministère de Pasteur Carl Stevens. Merci pour le ministère aujourd'hui, pour Pasteur Schaller, sa famille. Je te remercie pour le précieux corps de Christ. On a vu passer sur cette estrade ce soir de tous les coins du monde. Sans ce corps, où serions-nous ? Nous te remercions, Seigneur, pour ce peuple qui a des cœurs élargis. Père, nous prions pour les perdus dans ce monde ce soir. Touche des gens, Seigneur, d'un continent à l'autre. Nous prions que tu aies un ministère envers nous et à travers nous. Père, merci, parce que tu as dit « Demande et il te sera donné ». Demande-moi les nations du monde, et nous te demandons ce soir, levez les mains vers Dieu. Demandez simplement, nous te demandons ce soir, ô Dieu, donne la grâce aux gens. La grâce de Dieu qui amène le salut est apparue à tous les hommes. Nous te prions, ô Dieu, pour que tu nous motives, que tu aies un ministère envers nous, que tu nous aides, ô Dieu, aide-nous. Nous venons avec hardiesse devant le trône de grâce pour trouver de l'aide au moment opportun. Notre monde est dans un tel état en ce moment, Seigneur. Il y a tellement de perdus. Merci, Seigneur. Nous avons un message ce soir. Nous avons un message. Père, bénis ces paroles ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a une foule impressionnante. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Si ce n'était pas par grâce. Je suis un peu brisée à propos de nouvelles que j'ai entendues récemment à propos d'un missionnaire qui allait retrouver le Seigneur. Ça a un peu occupé ma pensée aujourd'hui. Je pense à cette vie qui est une vapeur, juste une vapeur, et à quel point rapidement elle s'en va. Et quand on pense à ce message ici, en Jérémie 32, la parole de l'Éternel vint à Jérémie disant, « Achète-toi mon champ. » Et il a reçu cette parole, et il lui a dit oui, sachant à quel point Dieu est fidèle. La situation dans laquelle il était, c'est qu'il était dans la cour de la prison à ce moment en particulier. Il avait tout le monde contre lui, il n'y avait personne avec lui. Sa famille était contre lui, les prophètes étaient contre lui, les prêtres, les sacrificateurs étaient contre lui, ses prétendus amis étaient contre lui. Il était l'homme de Dieu et il était enfermé dans un coin de la prison. Et la situation là-bas, c'était que les Chaldéens avaient entouré la ville de Jérusalem, assiégé la ville. Et je lisais qu'ils avaient commencé à l'assiéger, ils avaient construit des rampes pour pouvoir monter par-dessus la muraille. Et donc Jérémie est en prison et les Chaldéens contrôlent le pays. Et Dieu lui dit, achète un champ. Achète-toi un champ. D'un point de vue naturel, c'est ridicule. Acheter un champ contrôlé par les Babyloniens alors que vous êtes en prison. Mais il lui dit, achète-toi un champ et achète-le pour toi. J'aime ça. Le mot acheter en hébreu, ça signifie vous le recevez et vous le demandez. Et vous l'acquérez, ça devient à vous. Et il a acheté ce champ. Le droit à la rédemption vous appartient. J'aime ça, c'est l'œuvre accomplie. Le droit de la rédemption vous appartient. Le droit d'héritage vous appartient. C'est la fidélité de Dieu. Ensuite, il dit, scelle-le avec des preuves à l'intérieur et à l'extérieur Le mot pour preuve, c'est la même chose que pour livre, pour la Bible. Ensuite, il dit au verset 17 et au verset 27 que rien n'est trop difficile pour Dieu. Amen. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Et ces versets m'ont dit que Dieu dit, je suis le Dieu du ciel et de la terre. Rien n'est trop difficile pour moi. Je suis le Dieu de toute chair. Rien n'est trop difficile pour moi. Et finalement, ça prend soin de toutes les situations. Je suis le Dieu du ciel et de la terre et de toute chair. Et je te demande d'acheter un champ. Quand Dieu nous demande d'entrer dans un ministère, tous ces gens qui ont défilé sur l'estrade, ils ont acheté un champ. Et beaucoup d'autres qui sont dans le ministère et qui n'étaient pas là ce soir. On a presque 480 églises dans le monde entier. Et ces gens ont acheté un champ. Et je pensais au champ. Et il y a un trésor dans le champ, en Matthieu 13, verset 34. Et le champ appartient à Dieu, le champ appartient à l'Église, et le champ appartient aux chrétiens. Pourquoi les gens pensent-ils que ce pays est contrôlé par quelqu'un d'autre? Il est à nous. Vous me suivez? C'est ni l'islam, ni le bouddhisme, ni l'orthodoxie, ni les hindous. Où que vous soyez, rien ne leur appartient. Tout appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Les cieux appartiennent à Dieu. La terre appartient à Dieu et toute chair lui appartient. Donc, sachant cela, je crois que le champ est à moi et le champ est à nous, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça ne nous appartient pas? Bien sûr, on peut dire que Satan le contrôle, il y a les gouvernements, mais ça ne leur appartient pas, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Et quand Dieu dit, quand Jésus-Christ dit en Jean 4, verset 25, « Regarde les champs, ils sont blancs, ils sont prêts pour la moisson. » Il parlait de la joie de semer et de moissonner, et ils se sont réjouis ensemble. Est-ce qu'il n'y avait pas une joie extraordinaire alors que vous avez regardé les gens marcher ici pendant la marche des missions? On a une joie extraordinaire, une joie indescriptible, pleine de gloire. On a vu un petit clip, et au tout début du culte ce soir, c'était à propos d'une réunion de prière qui a lieu au Massachusetts. En 1906, cinq hommes étaient en train de discuter sur le livre de William Carey, sur l'obligation qu'a le chrétien d'atteindre des nations qui n'ont pas été encore atteintes. Et quatre de ces cinq hommes ont dit, c'est quelque chose d'impossible. Le monde est en train de devenir de plus en plus sophistiqué, de plus en plus éduqué. Toutes sortes de choses doivent se produire avant qu'on puisse y aller. Et Samuel Mill a dit cette phrase, « Nous pouvons faire cela si nous le faisons. Nous pouvons faire cela si nous le faisons. » Et il y a eu un orage incroyable. Et ça a duré 45 minutes. Et quand Samuel Mill a dit, « Nous pouvons le faire si nous le faisons. » Et tout d'un coup, leurs cœurs ont été remplis de joie et de louanges et de puissance de manière extraordinaire. Et un peu plus tard, je crois que c'est quelques années plus tard, le premier organisme des missions américain était né. Ça n'était jamais arrivé jusque-là. Donc ils ont formé cette organisation et ils ont envoyé les deux premiers missionnaires en 1812. C'était Johnson et Luther Rice. Et ils sont partis. Johnson est allé en Birmanie et après 17 ans, il avait seulement 10 convertis. Et il pensait qu'il allait rentrer. Et Dieu lui a donné un message personnel en lui disant, il n'y a personne sur la face de cette terre qui connaisse le langage et qui connaisse l'évangile pour le communiquer à toute cette nation à part toi. C'est toi, toi seul sur cette terre. C'est toi dont j'ai besoin. Et il est resté presque 40 ans. Et c'est extraordinaire parce que Judson a eu trois opportunités incroyables. Il aurait pu être un professeur d'université. Il aurait pu être le pasteur de l'église baptiste de Boston, Massachusetts. Et la commission britannique lui a aussi offert un poste incroyable à la cour du roi, dans la capitale de la Birmanie. Et vous savez ce qu'il a dit? J'ai dévoué ma vie à proclamer l'évangile glorieux de Jésus-Christ. Il a acheté un champ. Il avait acheté un champ. Et ces deux missionnaires sont allés. Et on a retrouvé 100 000 jeunes personnes qui sont parties comme missionnaires comme résultat de cette réunion de prière de ces cinq hommes au départ. 100 000 étudiants sont partis missionnaires à l'étranger et ont acheté un champ. Vous pouvez imaginer ça? Une des choses qu'ils ont dit, c'est on va les motiver à y aller maintenant avant que le monde leur vole leur passion pour Christ et leur passion pour les âmes. Ils doivent y aller maintenant. Ils ont une passion maintenant alors qu'ils sont jeunes. Mais à propos, on peut aussi avoir cette passion quand on est vieux. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Acheter un champ. Acheter un champ. Et vous regardez l'histoire. Une réunion de prière avec deux femmes comme vous avez vu. Vous regardez ça, vous regardez à GGWO et vous regardez ça le long des années et vous pouvez voir que vous avez acheté un champ, vous avez acheté un champ. Et contre toute opposition, tout par la vue est impossible. On est entouré par l'ennemi. Mais Dieu nous dit, achète un champ. Le droit à la rédemption t'appartient. Scelle la preuve dans un vaisseau. Et rien n'est trop difficile pour Dieu. Rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Quelle chose extraordinaire. Dieu peut prendre une église et il peut dire à un ministère, achète un champ. Je pensais à l'église de Rome aujourd'hui. Ils étaient 120 à 150 personnes. Et l'apôtre Paul leur a dit en Romains chapitre 1, verset 5, vous avez reçu la grâce et un apostolat pour obéir à la foi dans toutes les nations. Et on parle de votre foi dans le monde entier. Vous pouvez imaginer ça? Et il leur a dit, vous ne devriez pas avoir honte de l'évangile parce qu'elle a la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Et Paul a dit, je suis un débiteur de l'Évangile. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Je suis débiteur de l'Évangile et je suis prêt à prêcher l'Évangile et je suis prêt à venir à vous. Et cette Église avait reçu un champ extraordinaire, le monde entier. Rome a gouverné le monde pendant 1000 ans. Vous pouvez imaginer les possibilités pour des gens convertis qui vivaient à Rome d'aller n'importe où dans le monde. Si vous lisez Romains 15, vous pouvez voir Paul mentionner 7 pays. Et il mentionne le mot « nation » 10 fois en Romains 15. Ils avaient acheté un champ. Dieu dit le droit de rédemption vous appartient. Dieu va nous donner la capacité parce que rien n'est trop difficile pour Dieu. Et Dieu dit « Je suis fidèle ». Je pensais à David aujourd'hui. On a parlé un peu de ça récemment. David est entré dans la vallée d'Ela. Et il est là, et tout Israël tremble à tel point que Saül dit, que Goliath dit, vous êtes des serviteurs, ils avaient perdu leur identité en tant que peuple de Dieu. Et David arrive, il était là juste pour apporter du pain et du fromage, mais il y avait un autre plan. Et il dit, qui est cet incirconcis, ce Philistin, qu'il se permette de parler contre le Dieu d'Israël? Et ensuite, il dit, dans le verset que j'aime, est-ce qu'il n'y a pas une cause à défendre? On a entendu un message hier soir, message de Pasteur Chaleur à propos de maintenir ma cause. Est-ce qu'il n'y a pas une cause? Est-ce que nous n'avons pas reçu un mot, une parole de Dieu? Est-ce que Dieu ne nous a pas donné une parole personnelle? Et il a dit qu'il allait se tenir devant Goliath. Et la raison, la voici. La motivation, la voici. Le but, le voici. C'est pour que le monde entier sache qu'il y a un Dieu en Israël et que les nations sachent que Dieu nous a délivrés. Et je sais qu'il y a des gens précieux qui sont en train de se préparer à déménager en Iran. Et je pense à la Chine, les millions de personnes en Chine. On pourrait travailler dans 3 ou 4 différentes parties de Chine. Et j'ai vraiment envie d'aller en Chine. Il faut vraiment que j'aille en Chine cette année. Il faut que j'aille en Chine cette année. Je pense au Maroc, Tanger, je pense à l'Afrique du Nord, je pense à tous ces endroits, tous ces continents, comme vous voyez sur cette carte. Et les gens sont simplement en train d'attendre d'écouter le message. Nous avons un message, comme Pasteur Mathieu nous l'a dit, Dieu nous a donné un chant. Et vous savez ce que j'aime à propos de ce mouvement qui a amené, envoyé 100 000 missionnaires? Et le modèle qu'ils avaient, c'était un pour un. Un en Amérique, un à l'étranger. Est-ce que vous m'écoutez? Un en Amérique, un à l'étranger. Un au Texas, un en Afghanistan.
Wow.
Est-ce que vous n'aimez pas ça? Intéressant. Un en Californie, n'est-ce pas? Un en Chine. Il disait, c'est un pour un. C'est ce qu'ils voulaient faire. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Un pour un. C'est-à-dire qu'ils avaient des gens partout dans le monde. Il y a ces nations. Et si souvent nous pensons, comment je vais faire ça, comment je vais faire ci? Et Dieu dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit au-delà des capacités de Dieu? Si je me regarde à moi-même, je dis, ah! Ça ne pourra jamais arriver. Mais je dis, c'est toi, Seigneur, c'est toi. Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Et il a pu prendre un missionnaire à l'âge de 70 ans et l'envoyer en Mandchourie. Et City Stud, à 55 ans, il l'a envoyé 40 ans de plus en Afrique. Il peut prendre Jim Elliot et l'envoyer en Amérique du Sud, parce que rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Il dit juste, est-ce que vous voulez bien acheter mon champ? C'est mon champ. C'est mon champ. Ce monde, bien qu'il y ait un Dieu de ce monde, territorialement, appartient à Jésus-Christ. Amen. Et je deviens fatigué de toute la négativité qu'on entend dans la vallée des Là. Ils sont un peu perturbés et ça me rend en colère. Ça me met en colère. Oh, tu sais ce qui se passe. Comment on va faire ci? Comment on va faire ça? Achète un champ. Le droit de rédemption t'appartient. Tu as la preuve et tu as la capacité de Dieu pour accomplir l'œuvre. Et c'est tellement incroyable. Joseph a acheté un champ en Égypte. Et de 75 personnes, ils sont devenus 3 millions. Ça, c'est un champ, n'est-ce pas? Ça, c'est un champ. Pensez à ça. Quand vous regardez les Écritures, vous voyez différents hommes et des églises. Philippe a dit, je vais en Samarie et je vais acheter un champ en Samarie. Personne ne veut aller en Samarie. Il y a toutes sortes de préjugés dans les cœurs. Mais je vais aller en Samarie. C'est mon champ. Je vais aller en Galatie. Je priais aujourd'hui, deux noms me sont venus à l'esprit, et ils sont restés dans mon esprit, Pasteur Ben et Pasteur Matti. Et je pensais, ils sont là-bas, quelqu'un est en Israël, quelqu'un est en Turquie, et ces hommes ont besoin d'être des disciples, ont été des disciples de Pasteur Schaller. Il y a tellement de champs, Pasteur Matti, en fait, tu as pris plein de champs, partout dans le monde. Mais ces hommes ont dit, je veux acheter un champ. Et ça n'a rien à voir avec moi en train de me regarder moi-même. Est-ce que vous pouvez imaginer des Galiléens sans aucune éducation et sans argent? Et Dieu a dit, allez-y, je vous donne une commission. J'aime ce thème, nous nous tenons là. Mais mon message ce soir, c'est, nous allons. En acte 1, verset 11, ils sont tous en train de regarder Jésus monter au ciel. Et je pense qu'on aurait tous fait la même chose. Oh, regardez, il monte au ciel, regardez ça. Il y a un nuage qui est en train de le prendre et pour l'emmener au ciel. Et alors qu'ils sont en train de se régaler de leur dernier culte de louange, il y a deux anges qui arrivent et qui disent, pourquoi vous, hommes galiléens, vous êtes debout là en train de regarder en l'air? Ne passez pas le reste de votre vie à regarder en l'air, mais allez dans le monde entier avec l'Évangile. On a une commission de grâce de la part de Dieu. Achète-toi un champ. Achète-toi un champ. et c'est la Pologne, l'Europe de l'Est, l'Asie centrale, la Russie, la Chine, la Libye. Vous savez quoi? Non, ça ne peut pas être vrai. Tu veux vraiment que j'aille là-bas? Là-bas? Il n'y a pas une seule fois où j'ai pas prié pour où j'ai prié pour aller en Afrique de toute ma vie. J'aurais jamais voulu aller là-bas. J'étais allé partout. J'étais allé en Chine, en Inde, en Europe de l'Est, en Bulgarie, en Roumanie. J'étais allé partout. Mais j'ai complètement évité ce continent, sans aucun doute. Et alors Dieu a commencé à murmurer. J'aimerais que tu achètes un champ. Et ça n'a rien à voir avec une inclination naturelle ou ce que j'aimerais faire de ma vie, parce que Jésus a dit aux apôtres, « Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Mais quand tu vas devenir plus vieux, quelqu'un d'autre va t'emmener où tu ne veux pas. » Et j'aime ça. C'est pas « va te tirer ou va te pousser là où tu ne veux pas ». Dieu ne veut pas nous tirer sur le champ missionnaire. Il ne veut pas non plus nous pousser. Il veut nous porter. Et c'est tellement extraordinaire, ce ministère. Quand vous regardez tous les endroits, la pénétration de l'Évangile dans le monde, il y a des endroits, les gens n'y pensent même pas et ne prient même pas pour ces endroits. Et un jour, je parlais à des gens, et je pensais au Libéria et à la Sierra Leone, et le Koweït et le Yémen, et tous ces endroits dans le monde. Par la vue, d'un point de vue naturel, vous dites non, 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 non. Je veux bien prier pour ça, j'espère que quelqu'un va y aller. Mais je ne vais jamais penser à ça. Et Dieu dit, tu es en prison. Et il y a des rampes qui sont établies autour de la ville pour passer par-dessus tes murailles. Mais je veux que tu achètes quelque chose. Je veux que tu t'achètes un champ. Et Jérémie savait que c'était le Seigneur. Il savait que c'était le Seigneur. Et quand nous considérons d'aller de l'avant, je suis tellement enthousiaste à propos de l'année qui vient, des 2 années qui viennent, les 5 années qui viennent, les 10 années qui viennent. Ce n'est pas inconcevable que nous ayons 1000 églises dans 120 pays très bientôt. Pourquoi? Parce qu'on voit des gens qui sont en train d'être formés. Et pourquoi toutes ces missions se développent? À cause de l'Institut biblique. L'Institut biblique, la plus haute forme d'adoration de la parole de Dieu. Je suis allée à 5 universités avant d'aller à l'Institut biblique. Et tout ce que ça a fait de moi, c'est que ça m'a rendu complètement faux, bizarre, étrange, en train de poursuivre un ennemi. Mais quand je suis allée à l'Institut biblique, je me rappelle les premiers cours en 1978. C'était en Massachusetts. En novembre et décembre, et il n'y avait pas de chauffage. Et je regardais le poste de télévision pendant que Pasteur Stevens enseignait la psychologie biblique. Et je me disais, mais ça n'a pas de sens. Mais vous savez quoi? Ce qui importe, ce n'est pas ce qui a du sens, c'est Dieu. Et le fait que Dieu fasse de nous des pêcheurs d'hommes. Achète-toi un champ. Vous suivez l'histoire de ces 11 Galiléens, ils sont allés sur toute la planète. Il y en a un qui est mort en Inde, il y en a un autre qui a fini en Perse. Ils sont allés partout. Ils étaient ignorants et ils n'avaient pas fait d'études. Ils n'avaient pas d'argent et Dieu les a envoyés partout parce qu'il leur avait dit, achète-toi un champ. Regardez les champs. Levez vos yeux. Regardez les champs, parce qu'ils sont blancs et prêts pour la moisson. Amen. Père, nous te remercions ce soir pour les champs, le champ qui t'appartient. Tu dis, achète-toi un champ. Achète-toi un champ. Nous sommes tellement reconnaissants parce que nous nous tenons ici et de là nous allons. Nous sommes reconnaissants de ce que les flèches ont été envoyées au-delà de nous en 1 Samuel 20, verset 22. Nous poursuivons les flèches de Dieu. Les flèches ont été envoyées au-delà de nous. Et nous te remercions pour les hommes de Dieu. Daniel a acheté un champ à Babylone. D.L. Moody, a acheté un champ en Angleterre. Achetez un champ, recevez et acquérez un champ pour vous-même. Il y a des gens qui sont en Corée et c'est un champ pour eux. Et c'est comme ça que 95% de la Corée avant était bouddhiste et maintenant 75% est chrétienne parce que quelqu'un a acheté un champ. Ô Dieu, nous te remercions. Achète-toi un champ. Merci parce que nous avons la Bible. La parole, c'est Dieu qui me parle. La prière, c'est moi qui parle à Dieu. Et l'évangile, c'est moi en train de parler aux perdus. Merci Seigneur. La parole, Dieu me parle. La prière, je parle à Dieu. L'évangile, je parle aux perdus. Merci ô Dieu, parce que tu nous as placés dans un champ, dans ce pays, aux États-Unis, et ça t'appartient. Ça t'appartient. Ce n'est pas l'humanisme séculier ou les gens religieux, soi-disant religieux, sans Dieu, pas aux athées, mais ce champ appartient à Dieu. C'est le pays de Dieu. Et chaque pays dans le monde entier, les cieux et la terre et toute chair t'appartiennent. Tu es le Dieu de toutes choses. Nous te remercions, nous allons de l'avant. Nous nous tenons ici et de là nous allons. Et nous avons une promesse de la part de Dieu. Il ne nous laissera jamais, ne nous abandonnera jamais. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des jours, la fin du temps. Merci Seigneur. On ne peut pas faire ça sans recevoir la grâce de Dieu, par qui nous avons reçu la grâce et un apostolat, dans l'obéissance de la foi, dans toutes les nations. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous faisons un pas en croyant dans la fidélité de Dieu. Merci Jésus. Peut-être vous êtes ici ce soir et vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens ici ce soir. Dites simplement cela. Jésus-Christ a payé le prix, son propre sang. Il est mort, il est ressuscité. Dites simplement ce soir. Jésus, je crois en toi comme mon sauveur personnel. Je te reçois ce soir dans ma vie. Vis en moi. Donne-moi le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui peut changer ma vie. Et alors qu'on a tous les yeux fermés et la tête penchée, si vous avez fait cette prière, levez la main. Dites oui à Dieu. Levez la main, vous. Ce n'est pas pour rejoindre l'Église, mais c'est pour accepter Christ. Merci pour cette main. Merci Seigneur. Père, nous te remercions ce soir. Continue à avoir un ministère envers nous. C'est ton champ. C'est ton champ. Et il y a un trésor dans le champ. Père, bénis ce ministère dans le futur, dans les jours à venir. Que nous ayons une attente vis-à-vis de Dieu pour une vie et une puissance de la part de Dieu, une autorité de la part de Dieu, une vision de la part de Dieu, un but de la part de Dieu, une grâce de la part de Dieu. Père, nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, asseyez-vous juste pour un instant. Dieu nous a vraiment parlé ce soir. On a eu de grands messages, des réponses aux prières pour notre conférence. On l'a mentionné cette semaine. Et je sens que peut-être dans l'audience, Dieu a parlé à quelqu'un. Tous, mais peut-être de manière spécifique. Et si vous voulez, dans votre cœur, d'une manière ou d'une autre, portez pendant les 48 heures qui viennent ou les 3-4 jours qui viennent, dans la prière, demandez à Dieu de rappeler à vos cœurs et à votre pensée ce que vous avez entendu, ce qui a touché votre cœur ce soir. Pour moi, c'était ces messages extraordinaires, la grâce et achète un champ. J'aime ça, achète un champ. alors que c'est un moment où ce n'était pas le moment de le faire, alors que Jérusalem était envahie par une nation étrangère et qu'ils allaient tout perdre. Mais c'était pourtant le temps d'acheter un champ, comme Pasteur Shibeli nous l'a expliqué. C'est maintenant le temps. Et ce qui m'a touché aussi, c'est les images, la réunion de prière aussi, les images de gens et les grandes villes du monde, les histoires de Pasteur Mati à propos de ces gens perdus. Et nous avons le message. Dieu est dans le message. Dieu est venu et Dieu sauve. Les addictions, le jeu, le mensonge, le vol, les drogues, l'alcool, l'incrédulité, l'esprit de qui refuse le pardon, tout ça, ça remplit le monde. Et le diable est fort. Mais la Bible dit, liez l'homme fort. Et on peut se mettre d'accord ce soir pour prier pendant les jours qui viennent. Et peut-être qu'un pasteur va dire, cette année, je vais organiser dans mon église une réunion de prière une fois par mois ou une fois par semaine. Et nous allons nous rassembler et on va écouter Dieu. Et on va prier. Et on va lier l'homme fort. Et on va arracher de sa maison des âmes. Littéralement dans les prisons, au bord de la mort, aux portes de la mort. Les gens qui sont dans des addictions, des craintes, des peurs, les démons, de véritables manifestations des démons. Et notre peuple va marcher dans ces endroits, dans la puissance de Dieu, parce qu'on est ici en train de prier. Que pouvons-nous faire cette année? Comment Dieu nous a-t-il parlé dans nos cœurs? Que nous voyons cette année une victoire extraordinaire. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de Dieu et du fait que Jésus-Christ se fasse connaître dans le monde. Et Dieu nous utilise. Et il est évident que nous sommes touchés et privilégiés. Mais notre gloire est en Dieu et nous demandons à Dieu dans la prière. Pas juste des prières où on dit « Seigneur, je veux ça, 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 merci, amen. » Et ça m'arrive de dire ces prières, d'ailleurs. Ça m'arrive de dire ces prières. Et ça peut aussi être de bonnes prières. Mais une autre forme de prière, une autre forme, où vous dites, je vais passer du temps, je vais écouter, et je vais répondre à Dieu par la foi, avec mes frères et sœurs, et on va avoir un impact. Et c'est notre année. Jésus-Christ revient, et c'est une année pour lui. C'est son année. C'est notre marche de foi, notre portion du corps de Christ sur cette terre, et c'est une époque très importante de l'histoire. Et je vous demande juste de prier avec moi maintenant pendant un instant. Écoutons le Seigneur pendant un instant, avant de terminer. Père, je te demande, Seigneur, pour moi-même, et nous te demandons ensemble que nous comprenions mieux que jamais la condition des gens perdus. Et ta puissance qui est disponible pour nous que nous ayons un impact pour lier l'ennemi et voir des prisonniers libérés. Père, qu'on puisse entendre les cris des prisonniers, comprendre les souffrances qui sont dans la vie des gens, qu'on puisse envahir leur vie avec ta grâce, que ton Saint-Esprit soit comme une flamme et une flèche dans notre cœur, que les démons soient liés et que les anges soient présents dans toutes les assemblées, dans toutes les réunions, dans toutes les rencontres, dans toutes les sessions de counseling, que les prières puissent vraiment, qu'on puisse vraiment saturer notre œuvre par la prière. Remplis les églises de prières. Que les démons s'enfuient dans cette direction. Que la maison de Dieu, Ésaïe a dit que ma maison soit appelée une maison de prière pour toutes les nations. Père, pour notre pays, les États-Unis. Père, si tu as dit si mon peuple s'humilie et prie, je guérirai leur pays. Père, nous prions pour de grandes victoires cette année dans les bars, dans les hôpitaux, dans les prisons, de grandes victoires dans les campus d'université, dans les écoles, des victoires sur les trottoirs, dans le porte-à-porte, des victoires inexplicables, si ce n'est que Dieu, dans les cieux, écoute nos prières, remplit nos églises de gens, sauve des âmes, tourne-les des ténèbres vers la lumière et de Satan vers Dieu, remplis les familles de ton Saint-Esprit et conduis-nous à écouter et à penser avec toi, Seigneur. Et un grand impact, donne-nous une année extraordinaire et envoie des ouvriers dans la moisson. Conduis-nous dans ce que tu veux que nous fassions, que nous achetions un champ dans les temps troublés où nous vivons, parce que Dieu sait que ce n'est pas notre champ, c'est le sien, ce n'est pas notre terre. C'est notre temps, c'est notre privilège, c'est notre communion avec ton précieux Fils. Et nous prenons l'ennemi à la gorge et nous le lions spirituellement parlant. Nous libérons les captifs, nous écoutons les cris et nous venons. Au bord de l'enfer, nous venons. Dans les ténèbres, nous venons dans les villages. Nous venons. Au nom de Jésus. Amen.